mise en page, on fait tout, hein, la comptabilité, la mise en page, la gestion, la publicité, la direction, les artistes, et puis on fait appel des pigistes. Et on a, alors en journaliste pur, on en a... Oui. Non, il y a 4 journalistes, il y en a 2 à plein temps et 2 à mi-temps, à 60%, et puis la rédactrice française, et puis moi qui suis historien, je ne suis pas journaliste, mais qui suis historien, voilà. Voilà, on peut dire, ouais, voilà. Alors, juste afin de passer, bon, tout le monde est déjà content avec le protestantisme. Il y en a 2 qui sont des catholiques qui ont épousé des protestants et qui de fait sont protestants. Il y en a 1 qui n'est rien du tout. Et qui, mais qui était, quand il était lycéen, il allait à la médiathèque de sa ville, à la médiathèque de sa ville, il y avait Réforme, et il trouvait que Réforme était génial, et que quand il a fait une école de journalisme, il a voulu faire un stage à Réforme, il a fait son stage à Réforme, et aujourd'hui, il était tellement bien, et on a pu l'embaucher, d'abord à temps partiel, aujourd'hui à plein temps, et puis un peu un travail de community manager, c'est-à-dire de gestion des réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un qui n'est pas d'origine protestante, mais qui est très sympathisant protestant, je dirais. Hein. Mais la dernière journaliste qui nous a quitté n'était pas du tout protestante, c'était catholique, était, donc c'est pas obligatoire. Bon. Mais évidemment, il y a une part de notre travail. Alors, il y a une part d'actualité, hein. Alors, c'est la façon de traiter l'actualité, il n'y a pas de spécificité protestante. Et puis, il y a une partie aussi de traiter un peu, de l'histoire de l'église, enfin, de, des questions d'église. Et là, non, même la journaliste que vous avez citée, qui était catholique, c'est celle qui suivait les églises. Donc, il n'y a pas d'obligation. On a 6500 abonnés payants. Alors, 1, on ne le fait pas très bien. 2, à côté de aujourd'hui nos revenus commerciaux, c'est-à-dire. Alors, bon, là, il faudra dire quelques mots sur le financement de la presse. Alors, il y a une vraie difficulté aujourd'hui au niveau de la liberté de la presse, enfin au niveau du financement de la presse. C'est qu'aujourd'hui, la presse papier va très mal. Elle va très mal. Il faut savoir que, alors nous, ça ne touchait pas beaucoup, mais une grande partie de la presse est financée à partir de la publicité. La moitié du budget publicitaire qui était affecté à la presse en 2000, aujourd'hui a migré vers le web. Et si ça avait migré vers le web dans les milieux de presse presse électronique, c'est pas grave, c'est juste un changement de support. Comme c'est que dans le web, ça s'est mis sur quoi? Sur Facebook, sur Orange, c'est-à-dire sur les sites qui ne produisent pas de contenu et qui rapportent le contenu des autres. C'est-à-dire que les lieux de production de contenu journalistique a perdu la moitié de son financement de son revenu publicitaire en 10 ans. Je vais vous donner un chiffre. En 2007, le groupe Express a été vendu à un groupe belge 200 millions d'euros. L'année dernière, le même groupe a été revendu et s'est capitalisé entre 20 et 30 millions. La capitalisation de l'Express, l'expansion, enfin c'est un groupe où il y a 4 ou 5 chiffres, la capitalisation du groupe Express a été quasiment réduite par 10 en 8 ans. Elle a été diminuée par 10 en 8 ans. Pour vous dire que aujourd'hui, bon. Le Figaro, c'est Dassault. Le Monde, c'est Pigas, Nice, Nice et Berger. Libé, c'est Draghi. Comment compter cela? Alors, on peut dire les journaux sont prisonniers des groupes. Il ne faut pas sous-estimer la liberté des journalistes. Même s'il y a des pressions, il y a quand même dans la ligne du journalisme, dans toutes les écoles de journalisme, la question de la liberté de résister aux dictats financiers est quelque chose qui est renseigné, qui est vraiment très profond. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils le font jamais, hein, mais ça veut dire qu'ils essaient de résister. En revanche, ces grands capitaines d'industrie, quand ils s'achètent des groupes de presse, ils font pas ça pour gagner de l'argent. Parce que si vous allez gagner de l'argent, je veux dire, Dassault, c'est pas avec le Figaro qui gagne de l'argent. Hein. Et quand Hollande ordonne à Draghi d'aller renflouer Libération, il le fait sur Europe pour se présenter avant du président, il ne le fait pas pour rapporter de l'argent. Il le fait un peu sur ordre, un peu parce que les gens ont beaucoup d'argent et qui ont, après tout, pourquoi pas, ne pas. D'abord, parce que c'est prestigieux d'avoir un groupe de presse, et pourquoi pas aussi qu'il y ait une sorte de pression sociale en disant il faut trouver des financements pour la presse. Et si aujourd'hui il y a plus de financements, ces financements publicitaires diminuent, les gens disent qu'habituellement, ça risque d'être quand même c'est le mécénat qui va remplacer le. Qui va remplacer la publicité. Hein. Donc le mécénat, c'est voilà, des gens qui acceptent de financer la presse parce que la presse est une des respirations de la démocratie. Et alors, je peux dire que nous, Réforme, on a développé une campagne financière au-delà de notre... et qu'aujourd'hui, notre activité commerciale couvre à peu près 80% de nos dépenses. Et on a 20% qui sont du mécénat. Alors, on fait une campagne d'Assain Joudon à laquelle certains d'entre vous ont probablement répondu pour faire ça. Et puis on a deux ou trois grands mécènes. On a un mécène suisse qui a fait venir avec nous et qui nous a fait venir. Mais quand il y a lui seul, c'est 10% de notre budget. Vous voyez, c'est beaucoup. Hein. Ça s'inscrit dans une reconfiguration du financement de la presse au niveau global, où aujourd'hui, on sait bien que c'est un presse généraliste, je vous dis, il n'y a pratiquement plus un site qui gagne l'argent, et qui peut financer uniquement à partir de ses recettes commerciales.
Évidemment, quand c'est ce que le passé ne rapporte pas d'argent aux multinationales et aux actionnaires, la Bolloré qui possède la banque, etc. Ce n'est pas leur but. Leur but, c'est la sophistication, la manipulation, etc. et la population. Ça traite des biens quand on connaît les situations dans chaque pays et qu'on voit ce qu'on rapporte dans les médias. Mais c'est très bien. Il y a une autre censure des journalistes, c'est terrible.
Je veux faire comptabilité de vos propos. Je dirais, il y a des pressions, mais ne négligez pas quand même l'éclatée conscience des journalistes.
Bien, on va peut-être essayer de prendre les questions par groupe.
Les églises ont voix plurielle. Alors, je voudrais savoir comment vous gérez les minorités.
Bien, on souhaiterait pouvoir poser de plusieurs questions à la fois. Donc, n'ayez pas peur de poser la vôtre. Oui.
Pas s'il y a quand même actuellement une remise en cause à cause de la liberté de la presse, à cause de l'idéologie dominante, c'est-à-dire notamment le politiquement correct, ce qu'on appelle aussi le mainstream médiatique, qui n'autorise pas d'autres voies que le politiquement correct.
Oui. son état d'urgence, une liberté, a changé quelque chose, un sujet qui pouvait ne plus aborder.
Bon, ben voilà trois questions et on va laisser Antoine se débrouiller avec tout ça.
Bon, je pense que pas tout facile, c'est sur les minorités. Alors c'est sûr que voilà, dans l'ADN du protestantisme, il y a cette idée que la minorité doit avoir raison, et le protestantisme est profondément pluriel, parfois beaucoup trop, mais c'est vrai que c'est ce qui fait à la fois son charme et sa fragilité, c'est sa grande diversité et que ça part un peu dans tous les sens. Bon, alors, de ce point de vue-là, nous, alors, à Réforme, on essaie tant qu'on fait ce peu, et tant qu'on est au courant, et tant que nous en avons les moyens de rendre compte de cette diversité, nous essayons, dans le domaine religieux, d'être à l'écoute de la diversité, mais aussi, surtout, à l'écoute de ce qui émerge, de ce qui arrive, de quelles sont les nouvelles tendances, hein, qui arrivent. Par exemple, il y a, et ça on essaie d'en rendre compte, on sait, bon, mais par exemple, il y a une chose qui est en train d'arriver de façon extrêmement massive aux églises en France, c'est l'internationalisation des églises, l'africanisation des églises, enfin le fait que l'église est en train de changer de couleur au sens propre du terme. Hein, et dans des proportions qu'on n'imagine pas. Hein, quoi. Je vais vous donner qu'un exemple. Il y a deux ans, au moment de la Coupe du Monde de football, on s'est posé la question, on se dit, voilà, tout le monde parle de ça, du Brésil, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, bah, nous, avec notre petit centre de vue, on est allé voir les églises brésiliennes en France. Et on est allé voir, donc on savait, je connaissais la place des églises, parce que j'ai entendu parler qu'il y avait une église brésilienne à Paris, donc on allait, on a discuté un film, on a discuté avec le pasteur, qui sont les Brésiliens qui vivent à Paris et tout ça. Il nous a appris qu'en 10 ans, le nombre d'églises brésiliennes en France, alors à Paris, alors je vais pas vous dire de bêtises parce que je les ai notées, voilà. En 10 ans, le nombre, il y a 10 ans, il y avait 4 églises brésiliennes dans Paris. Aujourd'hui, il y en a 30. Il y a 100 églises brésiliennes en région parisienne. C'est qu'en région parisienne, il y a plus d'églises protestantes brésiliennes que de paroisses de l'église protestante unie de France. Brésilienne. C'est pas la plus grosse immigration en France. Hein? Donc, et donc, que ça, c'est symptomatique de ce qui est en train d'arriver à nos églises. Bah, alors, c'est des choses qui comprennent cette minorité, c'est peut-être pas si minoritaire que ça, mais il s'y arrive. Bah, c'est ça qu'on essaye de rendre compte, d'écouter, de sentir. Quels sont les défis et quelles sont les recompositions qui touchent nos églises aujourd'hui. Bah, c'est de cette diversité-là. Que nous essayons de rendre compte. Alors, la deuxième question, c'est la liberté de la presse par rapport au politiquement correct. Oui, bien sûr. Je dirais que le politiquement correct est quelque chose qui est évidemment très fort et contre lequel, qui est un des lieux de conformisme, hein, et contre lequel la liberté doit s'exprimer. En sachant aussi maintenant que chaque milieu, chaque idéologie, chaque doctrine a son politiquement correct. C'est que et que ce que nous essayons de faire, c'est d'essayer de faire rentrer en dialogue, parce que chaque chapelle, chaque conception a la conviction d'avoir sa vérité avec lui, et ce que nous essayons de faire, c'est de cultiver ce que nous appelons l'éthique du dialogue. L'éthique du dialogue a été définie par le philosophe Paul Ricoeur de la façon suivante, en disant, selon l'éthique du dialogue, dans le dialogue, ce que j'attends de mon adversaire, de mon partenaire, enfin de l'autre en face, c'est qu'il me serve ses meilleurs arguments. ce qui me dit le plus intelligent de ce qu'il pense. Et notre ambition, alors, je ne veux pas du tout paraître prétentieux, je ne dis pas que nous y arrivons, mais je dis que c'est notre ambition, c'est notre acte, c'est notre vie, c'est justement de faire ce travail d'intelligence. Et d'essayer justement de faire se dialoguer les différentes conceptions alors, par rapport à l'économie, par rapport à la politique, par rapport aux questions sociales, par rapport aux évidences que chacun peut avoir, comment les contester, mais comment les contester au nom de l'intelligence. Alors, c'est... alors, dans la question, vous allez là me dire que c'est mission impossible, c'est mission très difficile, mais je fais quand même au fond de moi confiance à une certaine compréhension de l'intelligence, un certain sens de la liberté qui est au fond de chacun, et de se dire que l'homme ne sera pas totalement ébloui par la pensée dominante. Je veux croire, je veux l'espérer. Une autre question qui était posée, qui était la question de l'état d'urgence. Alors, j'en parlais hier avec un papier en chef, je trouve que c'est un sujet sur lequel on n'a pas été bon. On n'a pas été bon dans la mesure où j'ai rencontré un magistrat, discuté avec un magistrat la dernière, qui me disait il y a un problème quand même à retirer au magistrat le contrôle ou l'accompagnement de la police. Hein. Et que disons qu'un des faits de l'état d'urgence, c'est que la police a fait besoin de contrôler le magistrat pour faire son travail, et que là, il y a probablement effectivement un problème constitutionnel qui se pose, et qui et que au nom des attentats, on a d'une certaine manière, et du respect que nous avons pour la police, peut-être pas assez rester en éveil notre esprit critique et notre esprit d'interroger, ou en tout cas de positionner, de questionner, et il est sûr que, là où je vous rejoins tout à fait en disant que c'est des grandes questions qui est posée à notre société ces temps-ci.
Demande de précision. À plusieurs reprises, vous avez parlé de ces églises et de leur vérité, de leur part de vérité. Ça me gêne un petit peu dans le dialogue ecuménique, parce que je ne pense pas qu'il y ait une église qui est la vérité. La vérité, c'est Christ. Mais c'est peut-être, si j'adhère à telle église plutôt qu'à telle autre, c'est parce qu'elle exprime une vérité qui correspond le mieux à ma conscience, à mon interprétation. Moi, j'avais juste l'impression que c'était peut-être pas assez ouvert dans la manière dont vous l'avez dit. Alors, je ne sais pas. Et puis là-dessus, j'aurais une deuxième demande d'information. Je pense que c'était intentionnel. Vous avez parlé des 100 églises brésiliennes, enfin, sidère. Est-ce que c'est vraiment église ou paroisse? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des églises différentes, avec des théologies différentes? Ou est-ce que ce sont simplement des groupes qui se sont constitués?
D'autres questions?
Merci de travailler un mot anglais pour toi. Si tu n'as pas entendu un,
je ne connais pas l'anglais moi, donc quand il y a un mot d'anglais, je suis perturbée parce que je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est cette mode-là, hein, où il y a un mot d'anglais à chaque phrase ou chaque deux phrases qu'on entend à la radio? C'est pour noyer le petit peuple, là, ou quoi? Je sais pas, je comprends pas. C'est une mode. En tout cas, merci à vous.
J'ai presque tout compris ce que vous avez dit.
Récemment, moi, dans mon esprit, je le range du même côté, si vous voulez, que par exemple une prédication comme l'a dit le pèlerin. Alors, est-ce que vous avez des affinités avec, disons, ces rédactions-là? Parce que, à mon avis, vous abordez un peu les problèmes de société sous le même jour. Alors, donc, est-ce qu'il y a une collaboration qui se fait pendant temps? Ça me semble, hein. C'est pas ce que j'ai entendu.
Il y a une question avec ce qui est mon esprit, ça.
Peut-être. C'est toi qui fais ça avec le retour.
Bon, voilà. Alors bon, je vais commencer par le factuel, la dernière question sur nos rapports avec la vie et sa grâce. Alors oui, bien sûr, on est. Alors, après, ça dépend des activités. C'est vrai qu'actuellement, on collabore bien avec Bayard. Donc Bayard, c'est Pèlerin et Lacroix. Hein. On a fait des collaborations pour Protestants Fêtes ou pour le synode fondateur de l'Église protestante de France, on a fait des collaborations avec Lacroix. La Croix, c'est pas mal parce que, comme ils font au quotidien qu'on est hebdomadaire, on n'est pas en concurrence. Avec la vie, on est un peu trop proche, donc on est un peu trop en concurrence, si vous voulez. Hein. Voilà. Alors bon, ce que les gars en Pernodie, c'est bien comme la vie, et je veux dire, on s'apprécie. Mais c'est vrai qu'on ne collabore pas trop parce qu'on est très concurrentiel hein, par rapport à d'autres. Donc, voilà. Donc, c'est un peu plus facile avec la Croix parce qu'on est dans des registres qui sont bien notés différents. Bon, cela dit, tout ce que je vous ai dit ce soir sur la presse, je suis absolument convaincu que le directeur de la vie de la Croix ou de Pèlerin aurait dit la même chose. Enfin, c'est un autre mot, mais il n'y a pas de différence fondamentale quant à notre façon de concevoir la presse et notre travail. Et chacun a une particularité. Mais, on est, voilà, on est en collaboration, en amitié et en concurrence. En amitié aussi. Alors, sur la question de cette éthique, là, quand je disais église brésilienne, alors, il faut savoir que dans les églises protestantes et encore plus dans les églises issues d'immigration, ce sont des églises qui sont encore toutes récentes et souvent ce sont des églises qui sont ce qu'on appelle congrégationalistes. Les églises qui sont indépendantes. Après, il arrive qu'avec le temps, elles finissent dans des unions d'église. Mais dans le vocabulaire protestant, l'église, c'est pas quoi. C'est l'église, c'est l'église locale. C'est quoi. Donc ça, pas que l'église italienne. Boum, dans le vocabulaire, en tout cas, des églises évangéliques et en tout cas, français, peut-être. Bon, voilà. C'est des questions de vocabulaire. Hein. Je vais vous prendre un exemple, les églises coréennes. Parce qu'il y a une fédération des églises coréennes, et la fédération des églises coréennes a adhéré à la fédération protestante de France. Et la fédération des églises coréennes, et dans les églises coréennes, il y a les églises presbytériennes, et il y a même deux églises presbytériennes en Corée, une qui est plus libérale, une qui est plus... traditionnelle, donc la PCK et la PCK, et puis l'église baptiste, et puis l'église franco-suisse, et à Paris, les différentes églises coréennes sont unies dans une fédération d'églises, et ce sont des églises indépendantes, laquelle fédération adhère à la fédération protestante. Donc pour vous dire aussi que, il est. Alors je ne sais pas exactement aujourd'hui quels sont les liens institutionnels entre les églises brésiliennes qui sont à Paris, mais au minimum, ils ont des liens de relations, de pastorale, de connaissances des uns des autres, et il n'est pas exclu qu'avec le temps, ils se rapprochent institutionnellement. Donc, comme ce sont des églises qui sont très fréquentes, le problème des églises récentes, c'est qu'au départ, elles se développent sur leur singularité, et puis après, elles cherchent à faire des alliances et des collaborations avec les autres. Ce que vous avez dit sur la vérité, alors, si j'ai semblé dire que, voilà, qu'il y avait des églises protestantes qui considéraient qu'elles avaient la vérité avec un V majuscule et qu'à l'exclusion des autres, je me suis mal exprimé parce que ce n'est pas ce que je voulais signifier, et que je suis tout à fait d'accord avec vous que, quand on est chrétien, la vérité, comme vous l'avez très bien dit, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une institution, mais c'est un homme, Jésus-Christ, Jésus que nous confessons comme Christ, et que lorsque Jésus lui-même s'est qualifié de vérité, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », que la vérité de la Christ est à la fois un chemin et une vie. Donc en cela, donc ça ne les avait acquis, quoi. C'est toujours quelque chose, c'est un chemin dans lequel on marche. Et quand j'ai évoqué la question de la compréhension de la vérité du protestantisme, Mathieu nous a précisé que c'était non pas la vérité comme étant une doctrine blindée à laquelle on devait adhérer, mais comme étant vraiment un chemin de vie au nom du Christ. Vous avez raison, notamment dans les réseaux sociaux, il y a vous avez dit tout à l'heure que c'était un journaliste qui n'était pas d'origine protestante et que on l'avait embauché, on dit aujourd'hui animateur de communauté, alors ça dit community manager, et je vous ai dit il y a 3 ans, au mois d'août, je ne savais pas ce que ça voulait dire une community manager, mais aujourd'hui j'ai embauché un community manager, on dit animateur de communauté, donc pour essayer de faire vivre réforme à travers les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Et c'est vrai que c'est des milieux dans lesquels les idiomes anglophones sont très prégnants.
Qu'est-ce que ça vous apporte d'être sur Twitter, justement, parce que le principe de Twitter, c'est un peu antinomique avec ce que vous faites, un hebdomadaire de réflexion, quand même. Donc, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose au journal de cette lettre?
Bon, là, vous
êtes
un peu sensible parce que je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Alors, ce que nous faisons, c'est que quand nous avons un tweet, en fait, nous tweetons que pour envoyer au journal. Donc, au journal, on a fait quelque chose pour attirer l'attention des suivants, des suiveurs, sur tel ou tel article du journal. Donc, ce n'est pas. Voilà, pour vous dire, ce matin, j'ai des chaussettes rouges. Tiens, il semble que dans les numéros de cette semaine, il y a tel article qui serait intéressant. Mais je suis un peu d'accord avec vous, c'est. J'ai un conseil d'administration qui pousse beaucoup, 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 beaucoup. Nous avons dans le conseil d'administration quelqu'un qui est l'ancien directeur du Monde, et quelqu'un qui est absolument convaincu que dans 10 ans, il n'y aura plus de journaux papier, et qui joue à mort la carte du numérique. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça, pour vous dire qu'on a un débat à l'intérieur du journal, mais pour l'instant, on essaye de jouer ce jeu-là, et je suis obligé de reconnaître que ça marche pas mal, quand même. Je veux dire par là que nos abonnements sont en légère augmentation, et que vous sachiez qu'aujourd'hui, au niveau de la presse, rien que si un journal qui arrive à garder ça au niveau de la carte, c'est un exploit. Je veux dire que tous les jours sont en baisse. Et que aujourd'hui on est en légère, augmentation. Alors, et que c'est dit bien sûr à la qualité du journal, mais je ne peux pas croire, mais que c'est aussi peut-être un des fruits de la politique sur les, malheureusement, sur les réseaux sociaux. Alors là, il y a quelque chose qui s'appelle les dollars, je veux dire, c'est pour parler en français, je veux dire, à partir du moment où on fait du commerce, c'est-à-dire dans une saison où on vend, et ben, c'est vrai qu'on est obligé de répondre à un certain genre de normes, je veux dire, la première fois qu'on a dit. On a fait la couverture en couleur, puisqu'elle nous a dit, si vous avez trop d'argent, vous n'avez qu'à donner à la CIMAD, on n'a pas besoin de couleur dans la réforme. Bon, c'est vrai, on pouvait donner à la CIMAD, c'était pas idiot, hein, c'était, bon, pour ça, on a dit que c'était plutôt, là, vous faites maintenir la couleur, parce que c'était aussi un service rendu à nos lecteurs, alors, mais ça n'est pas énorme, hein, c'est pas, ok, c'est pas très bon. Je t'attends pour tout le monde.
Vous avez une forme de défense.
Est-ce que nous nous censurons? Je vais dire, que je n'en tiens pas consciemment. On essaie vraiment de dire de ça. De temps en temps, il y a des sujets sur lesquels on dit, on ne va pas l'aborder maintenant, on reprendra à froid, quand les sujets sont trop brûlants. Pour justement permettre d'avoir prendre le temps de la prise de distance. En disant, prendre le temps de l'analyse, prendre le temps de ne pas se laisser... et puis, de temps en temps, voilà, on essaie d'être en quête des questions à long terme, qui sont en fait mises. Vous savez peut-être, bon, par exemple, évidemment, un des grands sujets qui a beaucoup agité le protestantisme et notre lectorat, c'est la question de la bénédiction des homosexuels. On en a beaucoup parlé, au bout d'un moment, j'ai dit stop, on a tout dit. On va pas continuer à retasser les mêmes choses, etc. On s'arrête, on n'en parle pas, et puis on en reparlera dans 2 ans, on fait un bilan. C'est ça. Alors, c'est une attention, mais c'est de dire, au bout d'un moment, les choses tournent en rond, et c'est de dire, là, maintenant, voilà, il nous semble que, donc vous savez, il y a eu, enfin, pour les protestants, il y a eu donc le synode de Sète qui a pris une décision sur ce sujet-là. Dans les articles avant, on en a beaucoup parlé. Dans le numéro d'avant le synode, j'ai écrit un grand article en essayant de dire quels sont les meilleurs arguments pour et les meilleurs arguments contre. C'était une sorte de terme, c'est une sorte de récapitulatif de tout ce qui avait été dit dans notre réforme. À mes yeux, quels sont les meilleurs arguments pour accepter la bénédiction des homosexuels, quels sont les meilleurs arguments pour s'opposer, simplement les plus intelligents. Je suis dans la prise de position. Pendant 2 ou 3 semaines, on a parlé des réactions, et maintenant on dit on arrête, on en reparlera dans 2 ans. Je ne sais pas si c'est de la censure, mais c'est. En tout cas, c'est un choix. Voilà. C'est pour dire que si c'est de la censure, il y a des sujets qu'on a décidé de ne pas traiter. Pas pour se censurer, mais pour dire on va aller se souffler un peu les choses et on en reparlera ultérieurement. Et pour vous dire, ce matin, on a eu notre comité d'action donc pour le. Pour le mois de la semaine prochaine, et évidemment, on s'est posé la question de la pédophilie. Et on s'est dit, on peut pas ne pas en parler, comment en parler, de façon juste, de façon paracoleuse, de façon, voilà. Et l'angle que nous avons choisi, c'est de dire, on va pas parler d'église, on va parler des victimes. Donc, on prépare pour la semaine prochaine 2 ou 3 pages sur qui sont les victimes de la pédophilie et quels sont les effets sur eux. Voilà. Donc, on essaie d'avoir ces angles qui sont à la fois... qu'est-ce que ça veut dire un regard évangélique l'évangile. C'est une actualité. Toujours la question qu'on se pose et qu'on se dit, ben là, peut-être que... Un regard évangélique, c'est de porter la voix de ceux qui sont en souffrance. Voilà, pour vous dire un peu comment on essaie de faire. Okay. Évidemment, c'est trop facile pour nous, protestants, de dire « Ah, les catholiques, c'est trop facile de dire, c'est vraiment pas ce qu'on veut faire. » On a posé la question au mouvement jeunesse, au mouvement scoutisme, et le mouvement scoutisme est extrêmement vigilant sur cette question-là. Vraiment une formation très sérieuse pour prévenir les dérives dans cette